Place publique.
L'Église catholique peut-elle en finir avec les scandales de pédophilie et d'abus sexuels en tout genre, tandis que les révélations pleuvent? Le Vatican promet des mesures concrètes et efficaces. Nous verrons ce qui se passe dans le diocèse de Bâle. Le Jura a fait dormir sur son territoire un nombre record de touristes l'année dernière. Le nombre de nuitées a dépassé les 360 000 en 2018, une performance d'autant plus remarquable que l'offre hôtelière décline toujours et encore. De grands noms de l'architecture contemporaine se presseront à Neuchâtel le 10 mai prochain. Nous verrons ce qui peut les inciter à participer à la troisième édition de la Journée de l'architecture et de l'urbanisme avec l'un des fondateurs et responsables de la manifestation.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. Joindre la parole aux actes, c'est tout l'enjeu qui attend l'Église catholique après le sommet sur la protection des mineurs qui s'est achevé dimanche dernier au Vatican. D'autant plus qu'en cette période où les révélations sordides ne cessent d'assombrir l'actualité, le pape François a demandé aux évêques du monde entier de plancher sur des mesures concrètes pour mettre fin à toute forme d'abus. Dans notre région, plusieurs précautions sont en passe d'être mises en œuvre ou le sont déjà depuis plusieurs années. On en parle avec notre premier invité de la soirée, l'abbé Jean-Jacques Theria. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vicaire épiscopal de l'évêché de Bâle. Vous êtes responsable de la partie francophone qui comprend notamment le Jura bernois et bien compris.
Oui, c'est ça.
Alors avant toute chose, un mot de votre part sur le contexte actuel. Un haut responsable du Vatican condamné pour pédophilie, l'ouvrage Sodoma qui vient de paraître avec des révélations choc sur les mœurs sexuelles à Rome, sans parler des nombreuses révélations de scandales à travers le monde. En tant qu'homme d'Église, qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui, plus que jamais, sont en colère, sont choqués, sont dégoûtés ?
Alors je pense que, comme beaucoup de monde, je suis choqué par tant d'immoralité et puis par la perversité de prêtres ou d'évêques. Je suis aussi effaré devant l'absence de prise de conscience de la gravité de ces actes. C'est le cas peut-être dans d'autres parties du monde, avec d'autres cultures, mais aussi dans l'Europe occidentale. Je suis un peu effaré que la mesure n'ait pas été totalement prise. Et puis je suis meurtri par la souffrance des victimes. Meurtri aussi par l'incrédulité des catholiques de base quand ils entendent tout ce déballage que vous avez évoqué, et puis devant l'abattement des prêtres, des agents pastoraux qui font très bien leur travail et puis qui sont complètement déboussolés.
La question est vertigineuse, mais quand même on vous la pose. Tous les échelons de la hiérarchie sont concernés. Selon vous, où se situe le cœur du problème pour qu'on assiste à une telle déroute aussi massive, voire même systémique ?
Alors il y a peut-être deux raisons à cela. Une première raison, c'est que beaucoup d'abus ont été commis à un moment où la question de la gestion de l'affectivité ou de la sexualité n'était pas du tout abordée dans les séminaires ou dans la formation des prêtres. Et donc là, il y a eu un manque qui est le résultat d'une époque qui n'est plus l'époque actuelle. Et puis il y a une deuxième dimension qui est celle de l'organisation de l'Église avec le sacré qui impose une forme de toute puissance autour de soi et qui est un point à corriger dans le fonctionnement concret de l'Église.
Alors, le débat autour de la sexualité des prêtres, des hommes d'église, est-ce que, selon vous, il est légitime ? Est-ce que cette sexualité est suffisamment questionnée lors de la formation et lors du ministère de ces prêtres ?
Alors, depuis une dizaine d'années, en Suisse romande, les candidats à devenir prêtres, qu'on appelle les séminaristes, sont accompagnés. Il y a des tests psychologiques, il y a toute une formation autour de l'affectivité et la gestion de sa sexualité. Donc je pense qu'aujourd'hui, des mesures sont prises. On n'évitera jamais, malheureusement, on ne pourra jamais promettre une protection à 100%, mais je pense que vraiment, aujourd'hui, des mesures sont prises dans la formation. D'autre part, cela se fait dans d'autres régions, mais pour le diocèse de Bâle, depuis 2015, il y a pour toutes les personnes engagées un cours qui est demandé autour de la gestion de la proximité, de la distance dans les rapports pastoraux et qui est donné par une association indépendante qui aujourd'hui s'appelle Espace.
Alors, On va y revenir sur ces mesures concrètes, mais une dernière question sur cette dimension, la sexualité des hommes d'église. Votre évêque Félix Kmür estime que le célibat des prêtres ne favorise en aucun cas les abus sexuels. Alors, la question, je vous la pose à vous, est-ce que vous êtes du même avis? Et si vous pensez que c'est le cas, est-ce que malgré tout l'église, de par son fonctionnement, n'attire pas des profils déviants qu'il faudrait mieux discerner?
Alors, le célibat n'est pas la cause des abus, parce que malheureusement, on constate qu'il y a des abus nombreux qui sont faits par des personnes qui ne sont pas des célibataires. Donc, il ne peut pas y avoir un rapport immédiat entre célibat et abus. Maintenant, sur la manière de discerner, je l'ai dit tout à l'heure, par le passé, c'était des points qui n'étaient pas du tout abordés dans la formation. D'autre part, on était dans un autre temps, il y avait peut-être des jeunes garçons qui partaient vers 12 ans dans un petit séminaire qui était uniquement dans des groupes de garçons puis d'hommes au séminaire. Tout cela ne favorisait peut-être pas de prendre la mesure de la dimension affective et sexuelle. Aujourd'hui, le profil des candidats à devenir prêtre est autre. Il y a une expérience de vie avant et il y a surtout un accompagnement au séminaire.
Alors, vous n'avez pas attendu ce sommet au Vatican qu'on a mentionné pour prendre des mesures. Parmi celles-ci, une obligation de formation, vous l'avez évoqué, depuis 2015, donc bientôt 4 ans, pour tous les agents pastoraux, prêtres et laïcs. Plus précisément, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est abordé pendant ces formations?
Cette formation, c'est une première formation de base qui a été donnée. Il pourra y avoir d'autres formations par la suite, mais qui est déjà de gérer toute la question de la proximité et de la distance. Comment est-ce qu'on se comporte avec d'autres personnes? Ce n'est pas directement la question exclusive de l'abus qui est discutée, mais c'est tout le comportement général, les attitudes, les paroles, les gestes et bien sûr, où il se situe une frontière à ne pas franchir.
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg va demander à tous ses collaborateurs, salariés ou non, de fournir un extrait spécial du casier judiciaire. C'est aussi une précaution que vous prenez?
C'est une précaution qui est prise de façon générale depuis l'année passée. C'est une demande qui avait été formulée de façon très concrète par la conférence des évêques à l'automne passé.
Cette conférence des évêques suisses qui a fait état en automne dernier du nombre de dénonciations d'abus sexuels commis au sein de l'Église, un nombre qui a augmenté. En 2017, il y avait 65 cas qui ont été annoncés. Alors une grande partie de ces cas sont prescrits. Est-ce qu'ils concernent ces nouveaux cas dénoncés aussi la région dont on parle, dont vous vous occupez, le Jura bernois?
Non, il n'y a eu aucune dénonciation toutes ces dernières années concernant la partie francophone du diocèse de Bâle.
Donc ça veut dire qu'à ce jour, selon vous, la situation est saine ou est-ce qu'il faut encore encourager les victimes à briser la loi du silence parce que peut-être que des victimes n'osent toujours pas parler?
Alors je pense qu'il faut encourager toutes les victimes à briser la loi du silence. Beaucoup l'ont fait par rapport à des cas anciens, mais je n'ai pas connaissance depuis 10 ans que je suis vicaire épiscopal d'annonces de cas récents.
Jean-Jacques Turia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir parler de ces sujets délicats dans Place Publique. On vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Place Publique. Gabriel Devec.
Le tourisme se porte bien dans le Jura. Le canton a même enregistré l'année dernière un record de nuitées payantes. Et ce, malgré un recul de l'offre hôtelière. Pour en parler, on reçoit Guillaume Lachat, directeur de Jura Tourisme. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a un chiffre qui permet de bien se représenter ce record. Le Jura a franchi la barre des 1000 nuitées payantes par jour.
Oui, effectivement, c'est un cap important. C'est la première fois qu'on dépasse ce cap symbolique de 1000 nuitées payantes par jour. Ça donne un petit peu une impression de la fréquentation touristique qu'il peut y avoir dans une région comme une autre. Mais c'est un cap, c'est un succès d'étape et pas un aboutissement en soi. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire.
Un cap d'autant plus remarquable que l'offre hôtelière dans le Jura s'appauvrit.
Oui, il est vrai que l'offre hôtelière s'appauvrit. Maintenant, je ne sais pas si c'est remarquable de le faire dans ce sens-là. Mais il est vrai qu'en 2018, on a bénéficié de d'un alignement des astres qu'on n'a pas connu ces différentes dernières années. On a eu une météo qui était très favorable. On a un intérêt du public toujours plus fort pour la nature et les séjours de proximité. On a eu des développements de produits et d'offres qui étaient d'importance pour le canton du Jura. Et aussi un marketing peut-être encore plus efficient, notamment par la destination Jura et Trois Lacs. Donc ça fait une croissance qui est importante. Elle est de l'ordre de près de 10% entre 2018 par rapport à 2017. C'est des chiffres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le domaine du tourisme régional de l'arc jurassien. C'est plutôt des chiffres qu'on attribue d'ordinaire à l'horlogerie. Donc effectivement, c'est très intéressant, remarquable peut-être. En tous les cas, la croissance du tourisme et de son hébergement dans le canton du Jura, pour donner encore un chiffre, c'est 20 000 nuitées de plus que le précédent record qui datait de 2015, mais c'est surtout une augmentation de 45% des nuitées en 20 ans.
Et cela, ça suffit pour compenser la baisse des nuitées dans les structures hôtelières classiques. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les hôtels, il n'y en a pas besoin dans le Jura?
Non, alors je crois que ce serait un petit peu trop provocateur de le dire comme ça. On a besoin d'avoir une diversité des hébergements dans la région pour satisfaire l'ensemble du public. Donc on a besoin d'hôtels, mais on a besoin d'une structure hôtelière peut-être différente, de plus grande capacité pour répondre au tourisme d'affaires, organiser des événements dans la région. On a régulièrement des demandes, on essaie d'organiser des choses dans la région, mais c'est vrai que j'avais une discussion qui m'avait fait sourire avec un collègue des Grisons qui avait un événement organisé pour 1000 personnes, puis il se plaignait, légèrement, mais il se plaignait quand même d'avoir dû contacter 10 hôtels pour loger ces 1000 personnes. Moi, si j'ai 1000 personnes à loger, j'ai besoin de contacter plus des 60 hôtels du canton du Jura et j'arriverai pas encore à tous les loger. Donc on a l'intérêt d'avoir une hôtellerie performante aussi dans la région.
Est-ce que vous avez un projet concret dans les pipelines? On sait qu'à Saint-Imier, il y a un hôtel qui va sortir de terre du côté de la gare, un projet novateur qui mélange un peu les catégories de clients. Est-ce que dans le Jura, à force de poser ce constat que les hôtels manquent à l'appel, un projet se dessine?
Bon, il y a des projets qui sont en gestation. Il y en a notamment un qui a été rendu public sur Delémont. Maintenant, on attend de voir s'il va se concrétiser. Mais c'est pas non plus une raison d'attendre uniquement un nouvel hôtel pour agir. Je crois que l'hôtellerie jurassienne, elle a aussi des qualités, mais elle doit se réinventer dans certains domaines, essayer de trouver des synergies avec d'autres domaines touristiques ou non, essayer de rendre leur hébergement peut-être un peu plus hybride, c'est-à-dire d'offrir aussi d'autres formes d'hébergement comme cela se fait ailleurs, ou alors encore d'imaginer des produits complémentaires pour des publics cibles spécifiques. Aujourd'hui, un hôtel, c'est plus uniquement des chambres, mais ça doit être aussi d'autres activités spécialement adaptées dans leurs infrastructures.
Donc à présent, c'est plutôt la para-hôtellerie, on l'a bien compris, qui tire ce nombre de nuitées vers le haut, vers des sommets même. La plus forte hausse concerne notamment les campings. Ça veut dire que le tourisme dans le Jura, pour l'instant, c'est essentiellement un tourisme de loisirs, proche de la nature, vous l'avez dit. Et donc, le temps qu'il fait, la météo joue un rôle, un très grand rôle dans la qualité de vos résultats.
Oui, effectivement, la para-hôtellerie représente environ 2/3 des nuitées dans le canton du Jura, donc elle a une grande importance. Cette para-hôtellerie, elle attire moins le tourisme d'affaires, qui est pourtant si important pour l'hôtellerie. Donc effectivement, on a plus affaire à un tourisme de loisirs et la météo joue ainsi un rôle très important. Ceci d'autant plus qu'on ne travaille pas avec des marchés lointains. On a d'abord des clients suisses qui sont là dans la région pour des courts séjours. Et un Zurichois ou un Sagallois qui a prévu passer 3-4 jours dans le canton du Jura, si une semaine avant on annonce une météo exécrable et qu'ils avaient prévu faire de la randonnée, c'est des personnes qui vont annuler et pas venir dans le Jura. Donc cette météo, notamment sur le printemps, l'été et l'automne, joue un rôle très important dans l'affluence qu'on peut avoir dans le canton du Jura.
Dans votre analyse, pour analyser donc ce record de nuitées, vous évoquez aussi une meilleure qualité d'infrastructure et une plus grande facilité d'accès à de nouveaux canaux de distribution. En gros, vous parlez de ces plateformes que sont Airbnb, TripAdvisor et d'autres.
Oui, alors ça concerne d'abord les chambres d'hôtes. On ne se rend pas bien compte, quand on habite la région, de toutes les pépites d'hébergement qu'il peut y avoir dans le canton du Jura, dans ces catégories de chambres d'hôtes et d'appartements de vacances. On a vraiment des infrastructures qui sont développées ces dernières années de grande qualité, avec un bon confort, bien placées dans la nature. Donc là, les infrastructures se sont vraiment aussi améliorées dans ces catégories-là ces dernières années. Et puis, effectivement, la distribution, je dirais la commercialisation et le marketing de ces infrastructures s'est aussi beaucoup développé dans le monde entier. On connaît la plateforme Airbnb. On a des plateformes aussi, je dirais à l'échelle suisse ou en tout cas européenne, qui sont dynamiques et qui amènent des clients de loin. Donc nous, on s'efforce au niveau du Jura Tourisme d'accompagner nos prestataires dans la para-hôtellerie pour utiliser de manière efficace ces plateformes, et ça paye ses fruits sur ces dernières années.
Ça veut dire que dans vos radars, vous avez quand même aussi les particuliers qui offrent des espaces ou des logements entiers?
Oui, alors ils doivent s'annoncer comme prestataires, ce qui implique un certain nombre de prestations légales. Donc c'est effectivement aussi des particuliers, mais pour certains, ils en ont fait leur métier ou en tout cas une activité importante dans leur quotidien.
Une dernière question qui concerne une autre catégorie d'hébergement, ce sont les hébergements collectifs. Et là, vous nourrissez une crainte par rapport à l'évolution du droit fédéral, enfin de la politique fédérale en la matière, avec possiblement des camps et des sorties d'école qui ne sont plus financées par les collectivités.
Oui, bien effectivement, il y a une épée de Damoclès qui pèse sur ce secteur depuis un arrêté du tribunal fédéral datant de décembre 2017, qui en fait disait en résumé que la participation des parents aux frais scolaires et de camps scolaires notamment n'était pas adéquat et que c'était pas aux parents de participer financièrement comme ça s'était fait jusqu'à présent dans ces camps scolaires notamment. Alors il n'est pas simple de retrouver d'autres financements publics notamment, et puis là il y a un risque que des camps qui se faisaient sur une semaine, notamment dans les hébergements collectifs ou les colonies de vacances qu'on peut avoir dans le Jura, soient tout simplement plus organisés à l'avenir, et là c'est une menace qui pèse sur cette catégorie. Mais en contrepartie, je pense qu'il y a d'autres choses à faire, notamment d'un point de vue du marketing digital dans ce domaine-là aussi, qui permettra de combler ce manque s'il venait à arriver.
Guillaume Lachat, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous dirigez Jura Tourisme, et puis on peut vous féliciter, vous y êtes aussi pour quelque chose, avec ce record de nuitées donc, dans le Jura qui a eu lieu en 2018. On vous souhaite évidemment le même, voire mieux, le même résultat, voire mieux pour cette année 2019. Excellente soirée.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Place publique.
Antoine Picon, Eduardo Souto de Moura ou encore Marc Kouchner, ces noms ne vous disent peut-être rien, mais on vous l'assure, ce sont des vedettes de l'architecture contemporaine, des personnalités qui, avec d'autres, feront de Neuchâtel, le temps d'une journée, une capitale mondiale de l'architecture. Tous vont participer le 10 mai prochain à la 3e édition de la journée de l'architecture et de l'urbanisme de Neuchâtel. Jaune, de son petit nom, ils partageront leurs convictions sur ce que doit être le nouveau monde en matière de bâti, de mobilité et de vivre ensemble, le tout aux patinoires du littoral, en marge du salon de l'immobilier neuchâtelois. Alors comment expliquer que Neuchâtel attire des spécialistes aussi éminents dans le domaine, avec quels arguments et dans quel but? On en parle avec évidemment l'un des fondateurs et responsables de l'événement, Frédéric Pont. Bonsoir.
Bien le bonsoir.
Merci d'être avec nous. Et avec nous également, on entendra tout à l'heure, Marilyn Andersen. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'EPFL, directrice académique du Smart Living Lab, centre de recherche sur l'habitat du futur qui est basé à Fribourg. Et vous serez, avec ce centre, partenaire académique de cette journée de l'architecture. Alors on commence avec vous, Frédéric Pont. Qu'est-ce qui incite les grands noms de l'architecture et de l'urbanisme à se presser à Neuchâtel ?
On a réussi par passion à vendre notre événement. Il faut vendre, il faut les convaincre. On a raconté un peu la genèse de notre histoire. On n'est pas de ce monde, le comité d'organisation n'est pas de ce monde de l'architecture. Mais on a pris le temps d'écrire des belles lettres, téléphone, pour dire il y a quelque chose à Neuchâtel. Et il faut raconter une genèse de l'histoire de l'urbanisme et de l'architecture à Neuchâtel.
Mais oui, mais c'est une petite ville provinciale au bord d'un lac. En quoi des architectes de renom ont envie de s'y presser, encore une fois? Quels arguments il y a dans votre lettre?
Alors, bien sûr, on a déjà parlé de la Suisse. La Suisse, mondialement, est reconnue pour ses compétences et ses qualités en architecture par ses écoles de Lausanne, de Zurich, de Fribourg, Mendrisio, etc. De nombreux architectes étrangers viennent travailler en Suisse dans les écoles. C'est important pour leur CV. Ils viennent participer à des concours. Ensuite, ça, c'est la Suisse. Nous, après, on a parlé du canton de Neuchâtel. Le canton de Neuchâtel est un laboratoire fantastique pour des architectes au bord du lac, des montagnes, des vallées. Et surtout, nous racontons aussi le patrimoine horloger, urbanisme horloger de l'UNESCO. Nous racontons également quelqu'un qui est très connu mondialement parlant. Il s'agit de Charles-Édouard Jeanneret-Gris. Ça ne dit pas grand-chose à tout un chacun, mais on va parler du Corbusier également.
Le Corbusier, c'est suffisant pour attirer des architectes ?
Oh, pas tout seul, non, mais c'est un ensemble de petits puzzles qu'on assemble et puis qu'on arrive convaincre quand même. Voilà. C'est, je crois que c'est aussi une question de cœur et de passion.
Mais attirer de telles pointures dans le milieu, qui remplissent des salles à travers le monde, on imagine que ce n'est pas bon marché non plus, hein, ils viennent des quatre coins du monde. La journée doit coûter cher, surtout qu'il n'y en a qu'une et qu'elle s'adresse à un parterre quand même choisi avec un public ciblé.
Oui, effectivement. Alors, c'est un investissement. On espère effectivement avoir une certaine crédibilité, une autorité dans une vision à long terme qui vienne simplement par la passion de dire « il faut y être » comme ça existe dans d'autres événements. Mais oui, nous investissons beaucoup d'argent en frais de déplacement. Marc Kouchner vient des États-Unis spécifiques pour notre événement. Et Dorset Odomura, qui est une star mondiale, prix Pritzker Nobel d'architecture 2011, ben effectivement, avec le prix Pritzker, ben, il vient et ça coûte. Oui, ça coûte. Nous les défrayons, nous versons quelque chose pour leur déplacement.
Donc cet événement, on l'a bien compris, s'adresse à un parterre de professionnels, un parterre qui devra donc aussi cofinancer quelque part cet événement. L'entrée sera payante, ça ne s'adresse pas à tout public qui viendrait voir le salon de l'immobilier neuchâtelois.
Non, bien sûr qu'il y a un public cible, ça c'est très important. Il s'agit d'architectes, d'urbanistes, d'associations professionnelles, les pouvoirs publics, investisseurs, environnementalistes, on peut aller même plus loin, philosophes d'architecture, historiens d'architecture, donc c'est quand même quelqu'un, un public très très ciblé. Oui, ça coûte quelque chose, alors on est vraiment très bas au niveau du tarif, on peut le citer, le montant est de 130 francs pour des professionnels, quand on sait que de nombreux autres forums en Suisse, 400, 500 francs, il existe le même genre d'événement à Cannes, en Allemagne, à Londres, c'est 1800 euros l'entrée, en sachant que derrière, il y a un emballage avec petit déjeuner, repas à midi, et d'autres prestations pour bien accueillir nos invités.
Mais dans le fond, c'est quand même ça votre ambition à terme de créer à Neuchâtel un événement incontournable, quitte à monter un peu les prix pour que ça devienne rentable. Le but, c'est quand même pas d'être un mécène des architectes.
Non, c'est peut-être pas le but, effectivement. Mais c'est vrai que c'est aussi, de nouveau, je l'ai évoqué plusieurs fois, une question de passion. On doit chercher, bien entendu, des partenaires économiques, des partenaires techniques pour notre journée. Car à moyen terme, on souhaite mettre un S, car nous voulons que le canton Neuchâtel et cette plateforme soient uniques en Suisse pour ces architectes, urbanistes et autres personnes cibles.
On doit le comprendre dans ce que vous dites, unique en Suisse, c'est que vous êtes le premier, finalement, à avoir exploité ce filon.
Oui, on a donné mandat à HEG il y a quelques années en arrière pour analyser le marché, qu'est-ce qui se passe et tout. On n'a pas trouvé, au gré de nos rencontres, de plateformes identiques. Bien entendu, on connaît le Forum économique de Davos, il existe des petits congrès, rencontres comme ça, au gré des SIA suisses qu'ils organisent. Mais cette vraie plateforme de rencontres, où à moyen terme, on vient présenter même des projets publics, on vient peut-être décider, les institutionnels qu'il faut investir dans telle ou telle région, il n'y a pas de tel ici en Suisse. Confirmé par la SIA Suisse, effectivement.
Et ça peut étonner, hein, parce que, vous l'avez dit aussi, à Neuchâtel, on n'a pas d'école d'architecture implantée sur le territoire, et même pas directement à proximité.
Non, mais avec l'histoire qu'on a racontée, puis Neuchâtel est tellement bien centré entre Zurich, Lausanne, Fribourg, voilà, ben on viendra tous à Neuchâtel pour parler de ça.
Et malgré tout, du coup, vous avez un partenaire académique, il fallait bien en trouver un, et puis c'est pas n'importe lequel, il s'agit d'une antenne de l'EPFL. Quelques mots avant qu'on entende sa responsable académique.
Ben oui, on est fiers parce que dès la première édition, on a déjà eu des contacts effectivement avec l'EPFL, on a poussé les portes, j'ai été des grandes écoles, donc j'étais assez fier d'aller là-bas avec ma petite mallette, et puis ben, on a été écoutés par de nombreux professeurs, nombreuses personnes, archisomes et tout, dont Mme Anderson, que vous allez avoir également sur les ondes, qui était présente comme aussi oratrice à la deuxième édition.
Marilyn Anderson, voilà, on vous accueille sur un tapis rouge. Bienvenue dans Place Publique. Alors vous êtes directrice académique, on l'a dit, du Smart Living Lab, centre de recherche sur l'habitat du futur. Vous êtes basé, en tout cas ce centre est basé à Fribourg. Qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a incité à vous rendre partenaire académique de cette journée d'architecture?
Alors effectivement, mais d'une part, j'avais eu l'occasion de la découvrir à travers la présentation que j'avais donnée à la dernière édition en date, et donc ça permettait aussi de mieux se rendre compte du type de public, de l'audience et du type d'autres orateurs qu'on pouvait trouver dans cette conférence sur une journée qui est vraiment très riche et très variée. Cette année est très particulière avec le calibre des orateurs aussi, donc c'était aussi une belle opportunité pour le Smart Living Lab de s'exporter, si on veut, hors du canton fribourgeois. Bon, il est déjà très connecté à Lausanne forcément, puisque l'EPFL est bien sûr basé principalement à Lausanne. Et donc là, l'idée, c'était aussi de pouvoir faire rayonner, disons, ce qu'on fait dans le Smart Living Lab et le type de recherche qu'on mène à travers ce partenariat académique qui a tout son sens, puisque au Smart Living Lab, on représente aussi ces valeurs à l'interface entre l'architecture et les questions plutôt d'esthétique architecturale et de performance architecturale, et d'autre part, les aspects plus techniques qui sont liés à la construction et à l'énergie. Mais l'ensemble est orienté autour de l'humain, qui est finalement la raison pour laquelle on construit.
Et qu'on se représente bien ce centre, hein. Vous êtes basé sur le site de l'ancienne brasserie Cardinal, donc à Fribourg. En quelques mots, la mission de ce centre de recherche, vous pouvez nous la rappeler ?
Oui, alors la mission, disons, très globale du centre de recherche, c'est vraiment de proposer un centre dans lequel on cherche et on essaye de trouver des questions et des réponses sur le futur de l'environnement bâti. Donc l'articulation se fait autour des questions de bien-être et donc de l'humain comme un usager, avec un focus particulier sur les questions environnementales et énergétiques, et dans une perspective expérimentale, c'est-à-dire en essayant de prendre vraiment la dimension de tester et du prototype, et de vraiment aller loin dans l'expérimentation, et de prendre aussi en compte la transformation digitale que nous vivons pour le moment.
Et Frédéric Pont, le thème de cette édition de Jaune se prête particulièrement bien à la participation d'un centre de recherche sur l'habitat du futur, puisque le thème c'est New World, le monde du futur, le nouveau monde, un thème qu'on pourrait finalement attribuer chaque année, hein, puisque les architectes c'est un peu des veilleurs d'anticipation.
Des visionnaires, effectivement, et c'est pour ça aussi qu'on s'associe avec une école, car demain, ils doivent penser à ce monde, ce bâti, comme l'a dit Madame Anderson, et c'était notre volonté d'avoir des termes assez larges, mais notre réflexion avec le comité, on ne vient pas de ce monde de l'architecture, mais au gré des médias, 2050, c'est 10 milliards d'habitants, comment on va vivre sur cette planète? Donc, on doit peut-être réinventer le nouveau monde de 2050 sur la mobilité, durabilité et le bâti au sens large du terme.
Avec des pistes fructueuses, en tout cas qui marquent les professionnels, le Smart Living Lab s'est assez vite illustré dans le cadre d'un concours, c'était aux États-Unis en 2017.
Oui, absolument. Disons, il y a 3-4 ans, on a décidé de se lancer dans cette folle aventure qui est d'emmener 200 étudiants dans l'exercice périlleux d'imaginer et de construire un vrai bâtiment à échelle réelle, et un bâtiment qui doit répondre à un cahier des charges particulièrement ambitieux en termes de sa performance, de son empreinte écologique, de son degré d'innovation, de son potentiel de marché, de sa communication, de l'architecture, de la construction. Donc un grand panel d'éléments qui en font un objet unique. Et comme Suisse, on a été un petit peu plus loin que ça, puisqu'on a aussi voulu questionner le concours lui-même, qui est sur une maison solaire, et d'essayer de plutôt aller au-delà et de parler de la transition énergétique plutôt à l'échelle d'un quartier, c'est-à-dire à une échelle qui permette d'englober plus de monde et de parler d'aller vers cette transition énergétique ensemble. Donc effectivement, on s'est lancé dans ce concours et on a emmené notre maison aux États-Unis. La compétition a eu lieu en octobre 2017 à Denver, et c'est vrai qu'on est revenu les bras bardés de trophées, ce qui était une magnifique manière de clôturer cette belle aventure.
Alors, des trophées, Neighborhood, oui. Oui, non, dites-moi.
Le Neighbor Hub est à Fribourg, sur le site de Cardinal dont vous parliez tout à l'heure, et porte toujours cette mission d'activateur social, de hub de quartier, qui permet aux habitants de Fribourg, en l'occurrence ici, de créer des workshops, de se réunir autour de ces questions, de voir un démonstrateur sur place, d'habiter dans le Neighbor Hub et de vivre toutes ces innovations au jour le jour. Donc ça c'est une mission qui lui est propre, qu'on a inventée pour lui et qu'on voit qui marche effectivement aujourd'hui en réalité.
Et d'avoir une journée de l'architecture et de l'urbanisme qui réunit donc le Gotha de ces domaines à Neuchâtel, pour vous c'est une opportunité. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Disons, on en attend le dialogue avant tout, des échanges intéressants avec l'audience qui va être là, avec peut-être des orateurs aussi, une manière de s'enrichir de ce qu'on va apprendre d'eux, de ce qu'on va apprendre de l'ensemble des présentations, mais aussi simplement de manière plus spontanée, les discussions qu'on va avoir autour de nous, peut-être aussi pouvoir parler de ce qu'on fait, de ce qu'on offre et de vers quoi on tend, et qui sait, de pouvoir peut-être lancer des collaborations, qu'elles soient académiques ou professionnelles ou industrielles, sur les différentes thématiques sur lesquelles on se concentre au Smart Living Lab.
On l'a vu récemment dans l'actualité, Frédéric Pont, les architectes veulent avoir leur mot à dire sur le vivre ensemble. On a en tête notamment la prise de position de 300 d'entre eux sur la récente votation contre le mitage du territoire. Est-ce que ce genre de plateforme jaune peut servir aussi aux architectes pour faire entendre leur voix sur des questions sociétales?
Oui. C'est vraiment justement cette plateforme-là qui peut être très, très utile. Vu qu'on veut amener ces architectes qui sont là pour dessiner, revoir l'avenir, comme les urbanistes, bien entendu, mais également faire venir les pouvoirs publics, et effectivement les politiciens de Châtelois déjà, mais même on veut monter jusqu'à Berne, dire c'est la plateforme de rencontre pour échanger et dessiner le futur.
Marilyn Anderson, est-ce que vous le vivez aussi comme ça? Est-ce que vous attendez aussi que la voix des milieux de la recherche dans l'habitat soit aussi peut-être mieux consultée, si ce n'est pas le cas? Mieux entendu,
c'est-à-dire que la recherche se passe en général vraiment en amont, si on veut d'être entendu dans la pratique, mais l'idée c'est de pouvoir voir ce qu'on développe au niveau de la recherche applicable et appliqué, et c'est dans cette perspective-là que des partenariats réactifs et dynamiques avec le milieu industriel ou le milieu des praticiens, et là en l'occurrence c'est un lieu de choix pour avoir les praticiens en architecture, de voir comment est-ce que ce qu'on développe, ce qu'on invente et ce qu'on voudrait voir se réaliser peut effectivement répondre à des besoins et avoir cet échange au jour le jour.
Et surtout que ça avance en Suisse aussi du côté de Zurich, avec aujourd'hui le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche qui a inauguré à Dubendorf une maison intelligente construite en grande partie par des robots et des imprimantes 3D. On a l'impression que l'avenir c'est déjà aujourd'hui, et puis qu'en Suisse ça avance vite. Est-ce que vous y voyez une forme de concurrence ou vous travaillez tous vers un même but?
Alors j'y vois un écosystème extrêmement prometteur. C'est vrai que les complémentarités entre le TH et les PFL, mais aussi les autres institutions fédérales comme l'EMPA qui est là où le NEST dont vous venez de parler a été construit, est extrêmement bénéfique, je dirais plutôt. Le NEST a cette vocation d'être un lieu d'expérimentation au sens le plus pur du terme. C'est pas réellement un bâtiment, c'est plutôt une plateforme pour pouvoir tester des choses. Et le Smart Living Lab, qui lui aussi a une vocation de créer son propre contenant, et c'est l'objet d'un mandat d'études parallèle que nous menons pour le moment avec quatre équipes sur ce futur bâtiment. L'idée, c'est de passer d'une expérimentation au niveau des modules à un bâtiment qui soit emblématique et représentatif de jusqu'où on peut aller lorsqu'on intègre des éléments de recherche dans un bâtiment de manière finalement pratique.
Merci beaucoup Marilyn Anderson pour ces précisions. Merci de nous avoir donné un peu quelques idées de cette recherche fondamentale que vous menez autour de l'habitat durable et des prolongements industriels qu'on pourra en attendre. Merci beaucoup Frédéric Pont aussi d'être venu nous présenter cette journée de l'architecture et de l'urbanisme, donc qui aura lieu le 10 mai au patinoire du littoral de Neuchâtel et qui réunira donc de grands noms de l'architecture. Merci à tous les deux, on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée, merci à vous.
Place publique.